Si le cheval est la plus belle conquête de l'homme, l'homme est la plus belle conquête de la mitraillette.
Georges Bernanos, un écrivain dans le siècle.
Je ne suis qu'un témoin. Je vois se construire un monde où ce n'est pas assez dire, hélas, que l'homme n'y pourra vivre. Il y pourra vivre, mais à la condition d'être de moins en moins un homme. Et d'ailleurs, ce monde ne se construit pas. Il donne l'illusion de se construire parce qu'on y tronque, mutile, retranche tout ce qui appartenait jadis à l'homme libre et qui pourrait rappeler demain au robot totalitaire la dignité qu'il a perdue, qu'il ne retrouvera jamais plus.
Il disait « Le bon Dieu ne m'a pas mis une plume entre les mains pour rigoler ». Son écriture ne supportait ni la comédie, ni même la douceur, et sa franchise s'accompagnait en conséquence de la solitude. Sous le soleil de Satan, en 1926, le journal d'un curé de campagne, plus encore en 1936, furent des succès. Mais au lieu de faire négoce de ses romans par toutes sortes de besognes d'accompagnement mondaines et rémunératrices, à chaque fois, il échappait à ses admirateurs, quand il ne les prenait pas à rebrousse-poil. Cet homme, qui fut pourtant chef de famille de 4 enfants qu'il lui fallait nourrir, déménagea peut-être une 30aine de fois. Français élevé à quelques kilomètres d'Azincourt et tout frémissant d'un patriotisme ardent, il choisit l'éloignement dès 1934. Il est des moments où il ne faut plus rester au niveau de la mangeoire et il faut monter. L'expérience de la France libre à laquelle il adhéra depuis le Brésil le rechargea dans sa vision de l'honneur, mais au retour, il n'était guère optimiste sur la société qui allait se mettre en place. Bernanos est mort en 1948, on se demande parfois si nous ne sommes pas parvenus au point où il craignait que nous arrivions. L'homme consommateur, prévenait-il, ne demandera au fond qu'à renier des libertés dont il ne veut plus courir le risque.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michael Kollauer, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez participé avec toute une fine équipe à l'édition des 2 volumes des œuvres romanesques de la Pléiade qui vient de sortir dans la prestigieuse collection de Gallimard. Vous avez le sentiment depuis longtemps, Michael Kollauer, que Bernanos accourait vers vous, il vous cherchait comme un nouveau lecteur.
Absolument. Je me considère, comme depuis toujours, depuis que j'ai fait cette rencontre avec Bernanos, il y a presque 40 ans de cela, comme un de ses fidèles lecteurs, à la fois complice et fidèle, et c'est un de ces hommes inconnus, de ces visages, de ces vieux frères dont il parle précisément dans... la préface au grand cimetière sous la lune.
Compagnons inconnus, vieux frères, nous nous retrouverons sur la route.
Exactement, et je vous avoue que j'ai peut-être parfois un peu la faiblesse de penser que je suis de cela et que Bernanos s'adressait à moi en quelque sorte déjà.
2 volumes d'œuvres romanesques complètes qui sont moins lourds que les 2 volumes précédemment parus, des écrits de combat. Mais les 2 s'entremêlent, non ?
Absolument, et ça a toujours été ma manière de lire Bernanos comme un tout, c'est-à-dire où à la fois l'œuvre de fiction et l'œuvre romanesque avaient toute leur importance. Et je rappelle d'ailleurs que les écrits de combat, les essais de combat de Bernanos ont été publiés à la Pléiade dans 2 volumes et qu'ils constituent, pour ainsi dire, l'autre face, mais une face effectivement qui répond et qui dialogue avec le premier Bernanos, qui est celui de, effectivement,
des romans,
de l'écriture.
Mais où il y a dans les romans de l'intervention.
Il y a absolument de l'intervention. Les romans ont toujours une intention politique, s'inscrivent dans un contexte bien politique, sous la forme de commentaires, par exemple. Et je dirais, pour faire le pendant, que l'œuvre de combat elle-même se signale par ceci, qu'elle est aussi l'œuvre d'un écrivain, c'est-à-dire où interviennent des figures empruntées à l'écrivain romanesque. Donc il y a un va-et-vient, on peut dire, entre les deux, et qu'il me semble important de considérer sous cette forme-là.
Vous préférez le mot écrivain impliqué à écrivain engagé, ça a été, dans sa jeunesse, un monarchiste exalté.
Absolument. Hein, absolument.
Camelot du roi, j'ai pas une plume pour rigoler, mais il avait une canne ferrée de Camelot du roi, de service d'ordre de l'action française, qui était pas là pour faire rigoler les interlocuteurs.
Non, absolument. On peut parler d'un monarchiste militant qu'il a été durant sa jeunesse, précisément en tant que membre des Camelots du roi. Et il nous faut naturellement parler à ce propos-là de la rencontre avec Maurras, que l'on a beaucoup, d'une certaine manière, critiqué, dénoncé, etc., parce qu'on le qualifie souvent de maurrassien, alors que lui disait tout le temps qu'il n'était pas précisément, qu'il n'avait jamais été un maurrassien. Mais je pense que il faut tenir compte aussi du fait que la monarchie, la vision monarchique, précisément, de Bernanos, c'est une vision avant tout idéalisée, je dirais presque, d'une certaine manière, romantique, et que c'est précisément l'apport du leader de l'action française, l'apport théorique du leader de l'action française qui va lui permettre, en quelque sorte, comme il le dit d'ailleurs lui-même, de dompter un petit peu son monarchisme à l'aide d'une doctrine qu'il appelle traditionnelle, positive, et qui est celle, effectivement, de Maurras.
Le premier grand livre, 1926, Sous le soleil de Satan. Alors, il est inspecteur d'assurance, c'est un peu drôle pour quelqu'un qui est habité par le doute. C'est pendant les années folles, il déteste l'expression années folles, il n'aime pas du tout l'immense gaudriole de l'époque, et il entreprend de jeter sur la pente qui descend la sainteté. Alors, nous sommes sur la route, on est toujours sur la route avec Bernanos.
En effet.
Dans l'adaptation du film de Piala, avec l'abbé Denissant, Gérard Depardieu, et le compagnon qu'il va rencontrer sur la route et dans la poussière vaine, et ben c'est le malin, c'est le diable, Jean-Christophe Bouvet.
Ah, il est tard, j'ai déjà trop tardé.
Si vous voulez, vous pouvez passer la nuit chez moi. Vous avez longuement marché. Vous en avez plein les pattes.
Excusez-moi cette faiblesse. J'ai honte de me montrer comme ça. C'est dur de penser qu'un pauvre prêtre comme moi a pour mission de soulager les pauvres, de révéler leur courage quand Dieu me délaisse.
Je vous ai vu tout à l'heure, quand vous marchiez à quatre pattes sur la route.
Vous m'avez vu ?
Vous gênez pas. Vous êtes épuisé. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos forces. Il faut patienter. Un bon remède, la patience, l'abbé.
La patience. C'est pas la fatigue qui m'accable à ce point. Je suis fort, robuste, capable de lutter longtemps. Mais pas contre certaines choses.
Reposez-vous sur moi. Je suis votre ami. Je vous aime tendrement.
Je n'ai pas d'ami.
Repose-toi. Je t'ai bien cherché, bien chassé. Le baiser d'un ami ne t'effraie pas pour si peu. J'en ai baisé d'autres. Beaucoup d'autres. Tu veux que je te dise ? Je vous baisse tous.
Beaucoup de cinéastes se sont passionnés pour Bernanos, Bresson, Cardinal, Bruno Dumont. Là, on entendait l'adaptation de Piala qui a senti les plus importants enjeux de Bernanos.
Absolument. Et je pense que ce qui est intéressant et particulièrement méritoire, peut-être dans l'adaptation de Piala, c'est qu'il a, d'une certaine manière, œuvré, pour ainsi dire, un petit peu à contre-courant de l'époque elle-même, puisqu'il faut oublier que le film est sorti en 1987, si je ne m'abuse, et qu'il, dans une époque qui est largement déjà sécularisée, la France est laïque, etc. Et ça me rappelle précisément les conditions dans lesquelles le roman bernanosien lui-même, en 1926, ça a été publié. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, c'est dans un contexte de crise qu'on appelle d'une manière un peu assez étrange les années folles, précisément, où Bernanos, précisément, dit que les grands mots étaient pipés, que les mots avaient perdu de leur sens, que les grands mots qui sont ceux de l'honneur, du devoir, de la foi même, n'est-ce pas, dans une époque qui ne pensait au fond qu'à s'amuser, se distraire, etc. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, jette, pour ainsi dire, à la face de ce monde de relâchement, etc., cette figure, bien sûr, de l'abbé Denissant, que nous venons d'entendre dans l'extrait ici dans l'extrait. Et oui, voilà.
Vous parlez d'un point de vue allemand aussi quand vous dites les années folles. Hey, oui. Ou elle a parlé du point de vue de l'allemand que vous êtes. C'était pas des années folles de la même manière de l'autre côté
en
du
effet.
Rhin.
En effet.
Il va envoyer sous le soleil de Satan au milieu de l'action française, dont il est encore solidaire. Léon Daudet, qui a du flair, va le soutenir. Qu'est-ce qu'il a pensé, le vieux maître morasse, sourd à beaucoup de nouveautés, et qui ne devait pas comprendre cette question morale telle que la soulevait Bernanos?
D'abord, je pense que d'un point de vue littéraire, purement littéraire, Maurras n'a pas dû penser beaucoup de bien de ce roman-là, tout simplement parce que Maurras, on le sait, est un classique, imprégné précisément de toute cette littérature classique qui nous vient de l'Antiquité, et surtout parce que je pense qu'en effet, Bernanos soulevait dans ce roman une question qui a toujours échappé, selon Bernanos même, à Maurras, qui est un homme effectivement de système, un penseur du système, et qui s'est très peu intéressé à des questions de morale, à des questions de vie intérieure, tout simplement parce que les deux se confondent. Chez Bernanos, la morale et la vie intérieure vont de pair, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'il est tout à fait légitime de penser que, au fond, Maurras était plutôt hostile à ce genre de littérature, comme d'ailleurs Daudet, puisque Daudet fera dire par la suite à Bernanos de cesser d'écrire des histoires de prêtres et de curés.
Mais c'est que la rupture va s'agrandir avec les années, devenir une véritable fracture pendant la guerre d'Espagne. Bernanos est installé depuis 1934 au Baléares, c'est là qu'il rédige le journal d'un curé de campagne, et au moment où éclate la guerre, un de ses fils est engagé dans la phalange franquiste, il constate que les partisans de Franco dans l'île de Majorque, eh bien, ils emprisonnent ou ils tuent avant même d'être attaqués. Et ça commence à le faire réfléchir très vite. Une lecture par Jean Topard.
J'ai vu pourtant des choses étranges. Une fille de 35 ans, appartenant à l'espèce inoffensive qu'on appelle là-bas Beata, vivant paisiblement dans sa famille, après un noviciat interrompu, consacrant aux pauvres le temps qu'elle ne passe pas à l'église, témoigne brusquement d'une terreur nerveuse incompréhensible, parle de représailles possibles, refuse de sortir seule. Une amie très chère que je ne puis nommer la prend en compassion et, dans le dessein de la rassurer, l'accueille chez elle. Sa charitable hôtesse l'interroge affectueusement. « Voyons, mon enfant, que pouvez-vous craindre? Vous êtes une véritable petite brebis du bon Dieu. Qui serait assez bête pour vouloir la mort d'une personne aussi parfaitement inoffensive que vous? Inoffensive? Votre grâce ne sait pas. Votre grâce me croit incapable de rendre service à la religion. On ne se méfie pas de moi. Eh bien, votre grâce peut s'informer. J'ai fait fusiller 8 hommes, madame. »
La dévote qui fait assassiner, et ne parlons pas du haut clergé qui crie « Viva la muerte !» La guerre d'Espagne, très important.
Absolument, un événement capital pour Bernanos, puisque c'est un moment de rupture, allais-je dire, de même que cela a été pour d'autres écrivains, comme Orwell par exemple et Koestler. Et je dirais que c'est le moment où il trouve une parole définitivement libre et seule aussi, parce que vous savez, quand il rédige ce pamphlet très violent, ce réquisitoire contre les crimes commis par le camp nationaliste, dont il est au départ plutôt sympathisant. Les grands cimetières sous la lune, bien entendu, j'ai oublié de citer le titre, avec d'ailleurs la bénédiction de l'Église catholique et notamment de l'évêque de Palma. Eh bien, Bernanos, naturellement, se met, pour ainsi dire, en porte-à-faux avec le camp qui était supposé être le sien, c'est-à-dire le camp de droite. Il le dit lui-même, j'ai été rejeté et dénoncé pratiquement par ceux à qui je prétendais m'adresser. Naturellement, c'est un règlement de compte, pourrait-on dire, si le mot n'était pas trop fort, avec sa propre paroisse, sa propre chapelle, on pourrait le dire ainsi. Ce qui me semble important, bien entendu, c'est que d'abord, c'est le début d'une autre position, une position de liberté absolue, première chose. Je crois que c'est important de le souligner. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs la romancière Lydie Salver dans le roman « Pas pleurer » dans lequel elle rend hommage, qui est paru en 2014, dans lequel elle rend hommage précisément à ce courage et cette lucidité à la fois de Bernanos.
Et il rompt avec le passé, ça veut dire qu'il écrit au présent.
Il écrit au présent, absolument. C'est-à-dire qu'il n'écrit plus au passé, il n'écrit plus pas en référence à une réalité déjà constituée dans le passé, mais il intervient dans le présent, d'où ce titre que j'aime bien, que j'emprunte à Houellebecq, cette littérature d'intervention, parce que c'est véritablement une littérature d'intervention dans le temps et le siècle.
De plus en plus de littérature d'intervention, il ne publiera plus de fiction, sinon en 1946, Monsieur Wynne, déjà largement rédigé au début des années 1930, et puis ce texte posthume destiné au cinéma, Dialogue des Carmélites, nous sommes à Compiègne, 1794, les Carmélites montent sur l'échafaud, une à une, on entend le couperet de la guillotine qui les fauche pendant qu'elles chantent, évidemment, puisqu'elles sont moins nombreuses, de moins en moins fort. Ça, c'est la version établie, orchestre symphonique de la radio de Vienne. Ont pu être surpris dans une autre version de Tchernyakov, Kent Nagano, opéra de Munich en Allemagne, Michael Kollauer. On a entendu à la place de la guillotine une bouteille de gaz, Blanche de la Force, a sauvé les Carmélites dans cette version qui a été désavouée par les ayants droit de Bernanos et de Poulenc, et un arrêt de la cour d'appel de Paris vient de leur donner raison. Alors c'est très compliqué les ayants droit du père Brugberger, co-auteur de Dialogue des Carmélites, ont retardé l'édition en deux volumes de la Pléiade à laquelle vous participez. Vous diriez que vous êtes partisan de la liberté d'adaptation, que l'écriture doit être ouverte?
Oui, je le crois. Très honnêtement, je ne pourrais pas juger de l'affaire dans le détail, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'assister à cette représentation, mais je plaiderait pour une liberté de principe. Il me semble que l'art a besoin de la liberté, comme l'homme de l'air et le poisson de l'eau. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait dans le sens de Bernanos, qui voulait précisément que son œuvre fût interprétée, qu'elle continue de nourrir notre imaginaire et notre imagination.
C'est au nom d'ailleurs de cette liberté, du poisson dans la mer, oui, qu'il va s'éloigner, même pas seulement de la France, mais de l'Europe, qu'il quitte en 1938, deux mois avant les accords de Munich, pour le Brésil.
Pour le Brésil, où il est allé, comme il le dit lui-même, cuver sa honte, et la honte précisément de la France et d'une certaine manière de l'Europe entière. Et c'est vrai qu'il s'installe au Brésil, dans cette fameuse maison à Barbacène, dans une maison qui est située au pied de la Croix des Âmes, d'une colline qui s'appelle la Croix des Ânes.
La Croix des Âmes.
Exactement, c'est magnifique.
Il y avait trop la maison titre. Trop petite, la propriété trop étroite, mais la maison,
le nom comptait. D'ailleurs, il va en sortir une œuvre qui s'appelle Le Chemin de la Croix des Âmes. Il est intéressant d'observer que cette situation d'exil, plus ou moins volontaire, lui permet précisément d'une certaine manière, de revoir après coup sa propre jeunesse et son propre passé, et notamment son engagement dans la Première Guerre mondiale, qui restera pour lui, je crois, un événement traumatique à différents points de vue, et qu'il, d'une certaine manière, qu'il revisite à la lumière de cette autre guerre qui est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'il écrit cette phrase qui est, me semble-t-il, magnifique, et je vous laisse juger ainsi que nos auditeurs. J'ai écrit dès les premières pages de ce livre que j'entrais dans la guerre ainsi que dans la maison de notre jeunesse. Du moins, j'y croyais entrer. Mais quelques lignes plus loin, j'ai écrit aussi que je m'en étais senti repoussé comme un mort de la maison des vivants. Je me demande maintenant si ce n'est pas moi qui étais vivant, si je n'ai pas été expulsé de la maison des morts. C'est dans Les Enfants humiliés.
Alors, il y a les volumes de la Pléiade, il y a aussi un fonds Bernanos à l'INA, pas toujours parfaitement répertorié, parce qu'on n'a pas pu identifier ce témoin brésilien qui vient visiter Bernanos, chemin de la Croix des Âmes.
La maison qu'il habitait avec les siens avait l'air d'une ferme française. La porte ouverte sur un mur orné du drapeau tricolore à la Croix de Lorraine, telle se présentait à notre arrivée l'habitation. Déserte en apparence. Mais bientôt, un chevalier venait à notre rencontre, Georges Bernanos, sur le beau cheval que lui avait donné le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Osvaldo Aranha.
Le monde ne sera sauvé que par des hommes libres. En parlant ainsi, je reste fidèle à la tradition de l'Europe. Je rends témoignage à la tradition de mon pays. Il ne fut pas seulement, au cours des siècles, la raison lucide, mais le cœur enflammé de l'Europe. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec les hommes du XIIIe siècle, comme avec ceux du XVIIIe, avec Saint Bonaventure, comme avec Pascal, avec Pascal, comme avec Jean-Jacques Rousseau. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Il faut faire un monde pour les hommes libres.
Alors, on connaît le porte-parole de la France libre, Michael, mais on connaît moins un texte très important, écrit à la lumière de l'expérience brésilienne et qui lui fait considérer autrement la France. Race contre nation. Et là, on va voir que l'écrivain de son siècle l'est d'une autre.
Oui, et mérite amplement ce qualificatif, bien entendu, parce qu'il y a une actualité dans ce texte qu'il écrit donc à la lumière d'un autre pays, dans la rencontre d'un autre pays qui se définit, bien entendu, autrement que la France, précisément. Et qui...
C'est-à-dire que le Brésil ne se définit pas par la généalogie.
Exactement, par cette généalogie historique, mais plutôt à la fois par le lieu et puis surtout par des racines que l'on pourrait qualifier de multiples, puisqu'on parle de métissage à propos du Brésil. En tout cas, c'est l'imaginaire européen qui l'appelle comme ça. Et c'est là que, effectivement, Bernanos redéfinit, pour ainsi dire, sa conception de l'identité française. Et qu'il écrit ce texte qui est magnifique et qui me semble être une réponse aussi à tous les délires que l'on peut percevoir ici et là, ou là concernant précisément l'identité. Il écrit ceci dans Le Chemin de la Croix des Âmes. Il n'existe pas de race française. La France est une nation, c'est-à-dire une œuvre humaine, une création de l'homme. Notre peuple, comme le peuple brésilien, est composé d'autant d'éléments divers qu'un poème ou une symphonie. Ça me rappelle aussi Renan, bien entendu, cette définition de Renan de la race comme de la nation comme une à la fois un passé et une volonté.
On va faire un concours de citations. Il rentre en France. Il y a cette citation sur l'épuration extraordinaire. La France avait regagné assez d'honneur grâce à la résistance et à la France libre pour en perdre un peu à cause de l'épuration. Il marche maintenant très difficilement, appuyé sur deux cannes. Il va rendre visite deux fois au général de Gaulle à Colombey. Et dans le salon de Colombey, il se lève sur ses deux béquilles. « Mon général, je vais vous le dire, la France, elle est dans la merde, mais vous, vous êtes au-dessus. » Et il multiplie les interventions et les conférences. Alors, il faut qu'on écoute un peu longuement celle-ci de 46 à Genève. Fond INA, Bernanos.
Cette civilisation est une civilisation de consommation qui durera aussi longtemps qu'il y aura quelque chose à consommer. En détruisant, elle se consomme. En produisant, elle se détruit. La civilisation mécanique et concentrationnaire produit des marchandises et dévore des hommes. On ne saurait fixer de limite à la production des marchandises. La civilisation mécanique ne s'arrêtera de produire des marchandises que dans le moment qu'elle aura dévoré les hommes. Elle les aura dévorés dans des guerres en masse énorme et par monceaux. Mais elle les aura aussi dévorés un par un. Elle les aura vidés un par un de leur moelle, de leur âme, de la substance spirituelle qui les faisait hommes. Ces hommes déshumanisés, elle les détruira en périssant elle-même. Ils périront avec elle, si tels hommes peuvent encore prétendre au droit et à l'honneur de mourir.
Genève, 1946, 2 ans avant sa mort. Si consommateurs, nous courons comme ça après les marchandises, c'est que nous nous fuyons nous-mêmes.
C'est ce qu'il dit effectivement dans un texte resté célèbre. C'est une manière de se fuir, c'est-à-dire que, au fond, cette civilisation qu'il appelle mécanique, concentrationnaire, etc., dans la liberté, pourquoi faire, un titre d'ailleurs qui rappelle vaguement Lénine, n'est-ce pas, la liberté, pourquoi faire. Ce constat qui est assez, il faut le dire, assez pessimiste, sinon désespéré qu'il fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déspiritualisation accélérée, de désincarnation, c'est un mot très important chez Bernanos, le terme d'incarnation, d'incarner qui explique notamment, par exemple, son choix d'une certaine forme de monarchie, etc. Une désincarnation de l'humanité presque à rebours, qui va contre ce que, précisément, pour le chrétien qu'est Bernanos, le Christ nous a, cette parole qui nous a enseigné, cette manière que nous avons précisément de nous préoccuper de nous, d'avoir le souci de nous, d'entrer en notre intérieur, de ne pas vivre précisément à la surface de soi.
C'est-à-dire que l'incarnation nous a permis de nous révéler, la désincarnation nous rend absents de nous-mêmes.
Nous rend absents, nous rend vides face à nous-mêmes, et face au monde des puissances concentrées précisément de l'argent, de la technique, de la science, du capital.
Il ne faut pas abuser, Michael Kollauer, du mot précurseur, mais l'école de Francfort, tous les gens qui ont critiqué la société mécanique de consommation dans les années 1960, je ne sais pas s'ils avaient lu Bernanos, mais ils sont l'écho de Bernanos sans le savoir.
Certains l'ont lu en toute certitude. Je pense notamment à Marcuse dans son ouvrage L'homme dimensionnel. Herbert Marcuse, qui était effectivement un disciple aussi lointain de l'école de Francfort. Mais je pense qu'il y a aussi chez Bernanos quelque chose qui rappelle, par exemple, toutes les analyses sur la technique qui vient se substituer à la métaphysique. Je sais que vous n'aimez peut-être pas trop ce mot.
Ah non, ce sont des auditeurs de France Inter, qui peut-être en ont peur, pas nous.
Et puis, figurez-vous que il y a quelques années déjà, je me suis intéressé à un ouvrage de Baudrillard qui s'appelle « La transparence du mal », où il dit précisément cette chose-là, c'est en forme de conclusion, où il dit le problème de notre société moderne, c'est que nous ne savons plus dire le mal. Nous ne faisons que parler du bien, ce qui est aussi une manière de vivre un peu à la surface de nous-mêmes.
Houellebecq, Salvaire, Baudrillard, vous avez cité des auteurs qui ne sont pas des catholiques, ni même des chrétiens. Comme dit Mathieu Lindon dans Libération, à la vue de vos 2 volumes, œuvre romanesque complète de Bernanos dans la Pléiade, il n'y a pas besoin d'être catholique pour lire Bernanos. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir été à la pêche à la baleine pour lire Moby Dick? Merci à vous. L'émission a été préparée par Franck Olivard dans l'équipe Ilinka Negulesco, Frédéric Martin. Je voulais citer Marion Philippe, c'est pour ça que j'ai une hésitation. À la technique, Guillaume Roux. La réalisation, c'est Stéphane Ronxin. Très vite, Mathieu Vidard, votre passionnant programme dans La Tête au Carré.
La géo-ingénierie pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.
Merci à vous.